إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on a vu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce séminaire, de nombreux enseignements dont la mise en pratique nous permettra par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala de trouver le bonheur dans nos foyers. Et parmi ces enseignements, nous avons vu l'importance de l'invocation. C'est-à-dire que le croyant et la croyante se dirige de manière véridique et sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, afin qu'il leur accorde les biens de ce bas monde et les biens de l'au-delà. Et parmi les invocations mentionnées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et que notre Seigneur a mentionnées comme faisant partie des propos tenus par les serviteurs du Tout Miséricordieux, il y a cette invocation immense qui est venu au verset 74 de Sourate Al-Furqan, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Donc cette invocation, elle fait partie des invocations prononcées par les serviteurs du Tout Miséricordieux. Ils souhaitent obtenir ces trois choses: la joie des yeux en leurs épouses, la joie des yeux en leurs descendants, et être un guide pour les pieux, c'est-à-dire un modèle exemplaire, un modèle dans le bien et la vertu. J'ai donc choisi dans cette assise, afin de clôturer ce séminaire, que nous méditions sur le sens et quelques bénéfices qu'il y a dans ce verset et cette invocation. On a donc dit que les serviteurs du Tout Miséricordieux prononce cette invocation afin d'obtenir la joie des yeux en leurs épouses et leurs descendants et d'être un guide pour les pieux. Mais la question qu'il se pose, est-ce que pour obtenir cela, il suffit simplement d'invoquer Allah? Et la réponse est non. Il est indispensable pour le serviteur d'accomplir les causes afin d'atteindre ce qu'il souhaite obtenir. Imaginez une personne qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin d'avoir une descendance pieuse, mais qu'elle ne se marie pas. Il n'y a pas de doute qu'en faisant cela, elle est dans l'erreur. Car lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui t'est demandé de ton côté, c'est que tu accomplisses les causes légiférées afin d'atteindre cet objectif que tu recherches. Donc la première chose que l'on demande dans cette invocation, c'est d'obtenir la joie des yeux en nos épouses. C'est-à-dire que si la personne est célibataire, que l'homme n'est pas marié, cela revient à demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde des épouses qui lui procureront la joie des yeux. Quant à ceux qui sont déjà mariés, alors ils demandent de faire de leurs épouses, celles avec lesquelles ils sont déjà mariés, des causes pour leur procurer la joie des yeux. Et les deux sens sont compris dans cette invocation. Et cette joie des yeux, il est indispensable pour l'obtenir d'accomplir des causes, comme on a dit. Et on a vu, dans un cours précédent, la parole d'Al-Hassan al-Basri à ce sujet, concernant cette joie des yeux. Il a été interrogé, rahimahullah ta'ala, est-ce que cette joie des yeux est ici-bas ou dans l'au-delà? Il a dit, rahimahullah ta'ala, selon le sens de sa parole, que cette joie des yeux, elle est ici-bas et que c'est de voir son épouse et ses enfants dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nombreux récits ont été rapportés à ce sujet dans l'explication de ce verset. Donc ce qui est visé par la joie des yeux ici, ce n'est pas la beauté apparente, mais c'est la beauté intérieure. Car la joie des yeux, elle t'est procurée si tu as une épouse ou si tu as un époux qui œuvre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'adore seul, on lui voit un culte exclusif, et qui suit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si les deux époux s'entraident dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils accomplissent tous deux ce qui leur incombe dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme accomplissement des obligations et délaissement des interdictions. Alors il n'y a pas de doute que chacun d'eux procurera la joie des yeux à son conjoint et entre dans ces ordres auxquels il faut se soumettre et à ces interdictions desquelles il faut s'écarter, le fait que les époux adoptent un comportement convenable l'un envers l'autre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, et comportez-vous convenablement avec elles. Et il a également dit subhanahu wa ta'ala, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Donc si chacun des époux veille à cela, qu'il veille à s'acquitter de ses devoirs vis-à-vis de son conjoint, que l'homme prend en charge son épouse, qu'il la vêtit, qu'il la nourrit, qu'il lui accorde un logement, qu'il adopte un bon comportement avec elle, qu'il, lorsqu'il la voit, il a un visage radieux, un visage souriant, qui lui vient en aide dans les différentes tâches domestiques dans lesquelles il peut l'aider, comme on l'a vu dans d'autres cours. Et également elle, si elle se soumet à cela et qu'elle lui donne ses droits, en termes de droits conjugaux, qu'elle lui obéit, qu'elle le respecte, qu'elle lui prononce des belles paroles, alors il n'y a pas de doute qu'ils obtiendront la stabilité et la sérénité dans leur couple, qu'ils auront une vie heureuse et qu'ils se procureront l'un à l'autre la joie des yeux, celle que l'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette invocation. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de négligence à ce sujet. Nombre d'époux, hommes et femmes, ne s'acquittent pas de leurs devoirs. Certains hommes ne donnent pas leurs droits à leurs épouses. Ils considèrent l'épouse comme un servant, ou pire encore. Car on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avec ses servants, il avait un comportement éminent, sallallahu alayhi wa sallam. Il se comporte donc avec elle d'un comportement qui n'est même pas convenable à adopter envers un servant. Il ne souhaite d'elle seulement qu'elle soit à son service, assouvir ses désirs. Il ne sourit jamais, il ne lui parle qu'avec mépris, il la rabaisse, et après cela, il attend d'elle qu'elle lui donne tous ses droits. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des plus grandes formes d'injustice desquelles la personne doit s'écarter et se préserver. Et si tel est le comportement de l'homme, il n'y a pas de doute que cela aura des conséquences néfastes sur la vie qu'il va mener dans son foyer. Il est donc obligatoire pour l'homme de prendre pour modèle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de revenir à ce sur quoi était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer. Comme on a vu, il était au service de sa famille. Il trayait le lait pour sa famille. Il cousait ses vêtements. Il réparait ses chaussures sallallahu alayhi wa sallam. Et il est celui qui a dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Comme il est venu dans le hadith, rapporté par Tirmidhi et authentifié par l'Albani, rahimahum Allah ta'ala. Et la femme dans cette situation, elle doit savoir que si elle patiente, qu'elle espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, en attendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une issue favorable, et qu'en parallèle de cela, malgré l'injustice qu'elle subit, elle continue de s'acquitter de ses devoirs envers son époux, même s'il est négligent à son égard. Alors si elle fait cela, elle doit se réjouir et savoir que la bonne fin sera pour elle par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, c'est une règle à retenir. Retiens cette règle dans l'ensemble de tes relations avec les gens. Toute personne envers qui tu as des devoirs et qui a des devoirs envers toi. Si toi, tu t'acquittes de tes devoirs envers cette personne, même si cette personne est négligente, alors Allah subhanahu wa ta'ala te soutiendra. Et la bonne fin sera pour toi. Bi'idhnillahi azza wa jal. Et quelle est la preuve de cela? La preuve de cela, c'est un hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullahu ta'ala. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui nous rapporte qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, il y a des gens parmi mes proches, c'est-à-dire parmi les gens de sa famille, avec qui j'entretiens les liens, mais eux les rompent avec moi. Je suis bienfaisant envers eux, et eux me causent du tort. Je suis indulgent avec eux, et eux ne le sont pas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, si tu te comportes réellement tel que tu viens de le décrire, alors c'est comme si tu leur faisais avaler des cendres brûlantes. Et tu auras toujours un soutien de la part d'Allah contre eux tant que tu te comportes ainsi. Subhanallah. Tant que tu continues de leur donner leurs droits, même si eux ne te donnent pas tes droits, et qu'au contraire ils sont injustes envers toi, qu'ils te causent du tort, C'est comme si tu leur faisais avaler des cendres brûlantes. C'est-à-dire que cette bienfaisance que tu fais, en réalité, elle leur cause du tort. Et tu auras toujours un soutien de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala contre eux, tant que tu te comportes ainsi. On voit à travers cela que même si une personne a des devoirs envers toi et que cette personne est négligente, ce n'est pas une excuse pour toi pour en faire de même et ne pas t'acquitter de tes devoirs. Car comme on a dit, l'objectif dans les devoirs conjugaux, avant tout, c'est d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que tu recherches. La première chose que tu souhaites, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. Car si Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi, alors tu n'en as que faire de ce que pensent les gens. Donc, tu avances sur ce chemin, à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, en te soumettant à ses ordres et délaissant ses interdits. Donc, de la même manière qu'il est venu dans ce hadith, si l'épouse s'acquitte de ses devoirs envers son époux et qu'elle patiente sur sa négligence et le fait qu'elle a des manquements vis-à-vis de ses responsabilités, alors la bonne fin sera inévitablement pour elle par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vice versa. De la même manière, l'époux se doit de donner à son épouse ses droits, même si elle est négligente, même si elle a des manquements, même s'il lui arrive de mal se comporter envers lui ou de le priver de certains droits. Il doit adopter ce bon comportement et ne pas rendre le mal par le mal, mais continuer de s'acquitter de ses devoirs, recherchant cela la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que si les époux agissent ainsi, qu'ils font preuve de patience face au manquement de leur conjoint et qu'ils rendent le mal par le bien, alors ceci sera une cause qui va leur procurer la joie dans leur foyer, bi'idhnillahi ta'ala. Et médite à ce sujet sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit idfa' billati hiya ahsan, repousse le mal de la meilleure manière. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, alors celui avec qui tu as une animosité deviendra comme un ami chaleureux. Ensuite, il est important pour l'homme de savoir que s'il recherche que son épouse lui procure la joie des yeux, alors, il doit prendre en considération la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé la femme. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une nature à l'homme et il a donné une nature à la femme. Et fait partie de la nature de la femme que si elle entend de ta part une parole douce, tout ce qu'il y a dans son cœur comme rancune se dissipera alors. Et inversement, si elle entend de toi une parole qui lui déplaît, même si c'est une parole anodine, peut-être une parole par laquelle tu ne souhaitais pas lui causer du tort, mais cette parole lui déplaît. Alors, elle sera prise de colère. Et telle est la nature de la femme. Donc, si l'homme sait cela, il doit traiter son épouse avec égard et délicatesse, en employant les bons mots et en tenant compte de cela. Et ce, afin que se réalise cette invocation lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la joie des yeux en ses épouses. Et parmi les choses importantes à souligner à ce sujet, c'est que l'homme doit veiller à la droiture de sa famille. Il incombe à l'homme, en tant que chef de foyer, d'ordonner le bien à sa famille, de leur interdire le mal, de leur enseigner ce qui est profitable pour eux dans leur religion ainsi que dans leurs affaires mondaines. Et tu ne dois pas te lasser de cela. Tu ne dois pas te dire, j'ai peur qu'ils se lassent, j'ai peur qu'ils se lassent de mes rappels, j'ai peur qu'ils se lassent du fait que je leur interdis ceci et cela. À partir du moment où ce que tu leur interdis et ce que tu leur ordonnes et ton conformité avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors persévère dans cela. Persévère et continue de les orienter vers le bien. Et à partir du moment où tu fais cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, même si les gens sont lassés de tes paroles ou qu'ils te trouvent lourd et ennuyant, tu dois savoir que tu trouveras ta pleine rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on demande dans cette invocation à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la joie des yeux en nos descendants. Et les descendants, ce sont les enfants, garçons et filles. Cependant, pour que ces enfants te procurent la joie des yeux, ils ont besoin d'éducation, ils ont besoin d'orientation, ils ont besoin d'enseignement, ils ont besoin que tu leur enseignes les valeurs de la religion, les valeurs morales, ils ont besoin que tu leur apprennes les bonnes manières, ils ont besoin que tu leur apprennes avant cela la base essentielle de notre religion, qui est la croyance authentique, à commencer par le sens de la parole du Tawhid, La ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré, sauf Allah. Si tu souhaites que tes enfants te procurent la joie des yeux, tu dois faire les causes pour cela, en commençant par veiller à leur bonne éducation. Il n'y a pas de doute que lorsque la personne voit un de ses enfants accomplir le bien, réciter le Coran, il se réjouit de cela. Il n'y a pas de plus grande joie pour l'homme que de voir ses enfants dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, sur le chemin de la piété, sur le chemin de la droiture. Mais ceci demande des efforts de ta part. Hommes et femmes doivent faire des efforts afin que leurs enfants leur procurent la joie des yeux, afin que leurs enfants empruntent la voie de la droiture, la voie de la piété, la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette éducation, elle doit commencer dès leur plus jeune âge. Dès qu'ils commencent à parler, l'enfant, tu commences par lui apprendre la parole du tawhid. Tu lui fais répéter la ilaha illallah. Tu lui fais aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui apprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Tu lui apprends qu'Allah le voit. Tu lui apprends qu'Allah l'entend. Tu lui apprends qu'Allah l'observe. Qu'Allah a connaissance de toutes choses. Et ainsi de suite. Tu ancres dans son cœur la croyance authentique et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dès son plus jeune âge. Car ce que l'enfant apprend lorsqu'il est petit, il ne l'oubliera jamais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfant, ce qu'il voit et ce qu'il entend lorsqu'il est petit, cela reste gravé dans sa mémoire. Il est donc important pour nous de prendre en charge l'éducation de nos enfants, et ce, dès leur plus jeune âge. Ceci ne veut pas dire que lorsqu'un enfant a 2 ans ou 3 ans, tu dois lui donner des cours sur la croyance ou ainsi de suite. Mais cet enseignement, il a lieu à tout moment de la journée. Tu lui enseignes au moment du goûter, lors des repas, tu lui enseignes les bonnes manières dans chaque situation. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le rapporte Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Alors qu'il était enfant, il dit qu'il était un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certainement sur sa monture. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Oh mon enfant, je vais t'enseigner quelques mots. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu souhaites demander quelque chose, demande-la à Allah. Si tu souhaites demander de l'aide, demande l'aide d'Allah. Jusqu'à la fin du hadith. Il lui a adressé cette recommandation immense alors que Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma n'était qu'un enfant. Et Abdullah ibn Abbas a retenu cette recommandation. Et il l'a rapportée et l'a transmise afin qu'elle nous parvienne jusqu'à aujourd'hui que l'on en tire profit. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu, au moment d'un repas, que la main d'un enfant se baladait dans le plat. Alors il lui a dit: Oh mon enfant, mentionne le nom d'Allah, dis Bismillah, mange de la main droite et mange ce qu'il y a devant toi. Un enfant. Donc dès leur plus jeune âge, tu dois enseigner ces choses-là à tes enfants. N'attends pas qu'ils grandissent et qu'ils s'habituent aux choses s'opposant à notre législation et s'opposant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite tu cherches à les réformer. Non, commence dès qu'ils sont petits. Dès qu'ils sont petits, enseigne-leur le bien. Montre-leur le bon chemin, afin qu'ils soient sur ce droit chemin et qu'ils se tiennent droit sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les choses importantes à enseigner aux enfants, il y a la véracité, le fait d'être véridique. Et parmi les meilleurs moyens d'enseigner aux enfants la véracité, il y a le fait que tu commences toi-même par être véridique. Si tu lui fais une promesse, alors tiens ta promesse. Si tu lui dis une chose, accomplis cette chose. Ne dis pas à ton enfant, viens, je vais te donner ci ou ça, un bonbon ou un gâteau ou autre. Puis ensuite, une fois qu'il s'approche de toi, en pensant que tu vas lui donner un bonbon ou un gâteau, tu ne lui donnes rien. Ou alors, tu l'attrapes parce que tu voulais le punir, ou autre chose encore. Que penses-tu que ressent l'enfant dans son cœur à ce moment-là? Ne se sent-il pas trahi? Ceci va endurcir son cœur. En faisant cela, tu lui apprends la dureté, et tu lui apprends également le mensonge. Wallahul musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela, comme cela est venu dans le hadith authentique, dans lequel il a vu une femme interpeller son enfant en lui disant qu'elle allait lui donner quelque chose. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé ce qu'elle allait lui donner. Elle l'en a informé. Et alors, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne l'avais pas fait, tu aurais menti, selon le sens du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains parents ne se rendent pas compte de la gravité de cet acte. Ils voient par exemple son jeune enfant pleurer, en train de crier. Il lui dit: Arrête de pleurer, je vais te donner un bonbon. Alors l'enfant, tu le vois directement, il retient ses larmes. Il arrête de pleurer. Parce que pour lui, le bonbon, c'est une chose importante. C'est une chose qui a beaucoup de valeur.
Il souhaite l'obtenir. Puis ensuite, une fois qu'il arrête de pleurer, il n'a pas de bonbons. Il n'y a pas de doute que ceci est un mauvais comportement. Si tu n'as rien à lui donner et que tu ne peux pas tenir ta promesse, dis-lui simplement de se taire. Dis-lui que ce n'est pas bien de crier, avec des belles paroles et des paroles véridiques, afin d'enseigner la véracité à tes enfants. Également parmi les choses importantes à enseigner à l'enfant, une fois qu'il atteint l'âge de 7 ans, il y a ce qui est lié à la prière. Une fois que l'enfant atteint l'âge de 7 ans, il est obligatoire pour ses parents de lui enseigner la prière. Et entre dans cela le fait de lui apprendre les règles de la purification. Donc tu lui apprends les ablutions et tu lui apprends la prière. Et tout ce qui est nécessaire pour qu'il accomplisse sa prière en réalisant ses piliers, ses obligations et également ses conditions et ses sunnans. Ceci fait partie des obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants. Une fois qu'il atteint l'âge de 7 ans, et ce jusqu'à 10 ans, il est dans sa période d'apprentissage. Tu dois l'encourager à prier. Tu lui ordonnes la prière. Dès que vient l'heure de la prière, tu l'envoies faire ses ablutions et tu le fais prier. Si c'est un garçon, son père le prend et l'emmène avec lui à la mosquée, afin de l'habituer à la prière en groupe. Toutefois, tant qu'il ne parfait pas la prière et qu'il ne parfait pas les ablutions, alors tu ne dois pas le mettre dans le rang de prière. Car n'entre dans le rang de prière que ceux qui font les ablutions correctement et qui prient correctement parmi les enfants qui ont atteint l'âge du discernement. Mais tant qu'il ne parfait pas les ablutions et qu'il ne parfait pas la prière, alors il n'est pas permis de le mettre dans le rang. Mais tu te mets en bout de rang et tu le mets à ta gauche, par exemple, ou à ta droite, entre toi et le mur. Ou alors tu le mets devant le rang, ou derrière le rang, à une place où il ne gênera pas les autres fidèles. Donc, à partir de 7 ans, tu enseignes toutes ces choses à l'enfant, afin que lorsqu'il atteigne l'âge de 10 ans, il aura pris l'habitude de prier. D'autant plus qu'il se peut qu'entre-temps, ou arrivé à l'âge de 10 ans, ou un peu avant ou un peu après, il atteigne la puberté, et la prière deviendra alors une obligation pour lui, car la plume ne sera plus levée. Ce sera un adulte. Il lui incombera la même chose qui t'incombe. Donc tu dois le préparer à cela. Tu dois le préparer à prendre ses responsabilités. Tu dois le préparer à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Et si tu ne t'inquiètes pas de ce devoir immense envers tes enfants, comment peux-tu espérer qu'ils te procurent la joie des yeux? En effet, les parents qui négligent l'éducation de leurs enfants, tu les trouveras souvent pleins de chagrin, pleins de regrets vis-à-vis de leurs manquements passés. Certes, la guider appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui guide les cœurs. Mais nous, ce qui nous incombe, c'est de faire les causes afin que nos enfants deviennent, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, des musulmans pieux, se soumettant à ses ordres, délaissant ses interdits et suivant la sunna de son noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, la troisième chose que tu demandes dans cette invocation, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de toi un guide pour les pieux. C'est-à-dire que tu sois un modèle, mais pas un modèle pour n'importe qui, un modèle pour les pieux. Ceux qui s'accrochent pleinement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment être un modèle pour les pieux? En réalité, lorsque tu fais cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala, cela englobe plusieurs demandes. Premièrement, c'est comme si tu demandais à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la science, d'augmenter tes connaissances. Pourquoi? Car tu demandes dans cette invocation d'être un guide pour les pieux. Et comment être pieux? Il n'y a pas de doute que celui qui sera guide pour les pieux, il aura aussi, de son côté, atteint la piété. Mais il ne peut atteindre cette piété qu'en ayant connaissance de ce qu'implique la piété. Quelles sont les choses qu'il doit accomplir? Quelles sont les choses qu'il doit délaisser? Donc lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de toi un guide pour les pieux, c'est comme si tu lui demandes de te faciliter l'apprentissage de la science. Et je vise par là la science religieuse. La deuxième chose qui est comprise dans cette demande, c'est que tu mettes en pratique cette science. Car la personne ne peut pas être un guide pour les pieux et un modèle exemplaire si ce n'est en mettant en pratique la science. Tu apprends la science, puis tu la mets en pratique. Toutes ces choses, tous ces bénéfices, tous ces enseignements que l'on a partagés au cours de ce séminaire. Ce n'est pas simplement des informations desquelles on prend connaissance sans objectif. Mais l'objectif pour nous, c'est de mettre en pratique ces choses. Et ceci est la finalité de la science. Lorsque tes connaissances religieuses augmentent, ce qui est attendu de toi, c'est que tes œuvres, elles aussi, elles augmentent. Plus tu apprends, plus tu vas mettre en pratique. Car la mise en pratique, c'est la fidélité de la science. Et il n'y a pas de doute qu'une personne qui ne met pas en pratique sa science, elle ne peut pas être un modèle pour les pieux. Et de la même manière, les parents, ils doivent veiller à mettre en pratique ce qu'ils enseignent à leurs enfants. Comment veux-tu que ton enfant t'écoute lorsque tu lui ordonnes certaines œuvres de bien alors que toi tu les délaisses? Il n'y a pas de doute que le fait de montrer l'exemple, cela aura beaucoup plus d'impact que de simples paroles qui ne sont pas suivies des actes. Tu dois donc veiller à cela, à mettre en pratique ce que tu apprends, à mettre en pratique ce que tu enseignes à tes enfants, afin d'être un modèle exemplaire, un modèle pour les pieux. Donc lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de toi un guide pour les pieux, cela englobe le fait que tu lui demandes la science et que tu lui demandes la mise en pratique de cette science. Également, cela englobe une troisième chose, qui est une chose très très importante. C'est que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pour faire de toi un guide pour les pieux, qu'il t'accorde un bon comportement. En effet, le comportement, il est d'une importance immense. Et malheureusement, celui-ci est absent chez beaucoup de personnes, surtout à notre époque. Il n'est pas possible pour la personne d'être aimée. Il n'est pas possible pour la personne d'être acceptée. Et encore moins d'être un guide pour les gens, si ce n'est en ayant un bon comportement. On doit voir à travers son comportement que c'est une personne qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement, et non pas simplement dans les apparences comme beaucoup de gens aujourd'hui. Donc, si la personne fait cela, qu'elle a la science, qu'elle met en pratique cette science, qu'elle adopte un bon comportement, qu'elle se soumet aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle délaisse les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de doute qu'en faisant cela, elle obtiendra l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah l'aime, alors les gens l'aimeront et le suivront par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses et les comportements les plus importants à adopter, il y a la patience et l'endurance face aux torts causés par les gens. Que ce soit les torts causés par les proches, comme au sein du foyer, par ton conjoint, tes enfants, tes parents ou autres, mais aussi les gens de manière générale. Tu dois savoir que la voie que tu as empruntée, la voie de l'islam, la voie du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une voie couverte de roses comme le disent les savants. Mais forcément, plus tu vas avancer sur ce chemin, plus tu vas trouver des embûches. Plus tu vas réussir à avancer sur ce chemin, plus tu auras d'ennemis. Donc, la personne doit faire face à cela. Et elle doit se préparer à patienter face aux torts causés par les gens. Et certes, la famille qui tient à s'accrocher à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à mettre en pratique les préceptes de notre religion dans son foyer, dans l'éducation de ses enfants, alors il rencontrera beaucoup d'embûches. Il doit donc patienter face à cela. Patienter face à ces différentes embûches que tu rencontres sur le chemin de la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te soucie pas des gens. Même si les gens te trouvent étrange, n'oublie pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et redeviendra comme quelque chose d'étrange. Annonce donc la bonne nouvelle aux étrangers. Il n'y a pas de doute que cette étrangeté, elle est ressentie de nos jours par toute personne qui cherche à s'accrocher à sa religion, et d'autant plus s'il veille avec ferveur à suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vas forcément rencontrer des embûches et tu dois patienter face à cela, et ceci fait partie des nobles comportements que tu dois adopter. Et tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu patientes avec tes proches, tu patientes avec ta famille, tu patientes avec tes enfants, tu patientes avec tes parents, tu patientes avec les gens qui t'entourent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te comportes avec eux tous de la manière qui te permet d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois savoir que tout ce qui t'atteint comme nuisance sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est un moyen pour toi d'obtenir un rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nombreuses récompenses. Rappelle-toi qu'un jour, tu seras seul au fond de ta tombe et que rien ne te profitera si ce n'est tes œuvres pieuses. Rappelle-toi qu'un jour, tu seras seul devant Allah subhanahu wa ta'ala et que tu devras rendre compte de tes œuvres. Et qu'à ce moment-là, rien ne te profitera si ce n'est tes œuvres pieuses. C'est les œuvres pieuses qui te profitent en réalité. Et les biens de ce bas monde et ses plaisirs n'ont aucune valeur à côté de cela. Donc le musulman, il doit se rappeler de cela. Toujours avoir cela en tête. Lorsque tu cherches à obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, rappelle-toi que tu vas devoir passer certaines embûches, passer certains obstacles, subir certaines difficultés, mais tu te dois de patienter dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde comment le diable essaye de détourner le musulman face à cela. Regarde simplement pour la prière. Lorsque tu commences à prier, beaucoup de personnes sont incitées par leur âme, car l'âme est incitatrice au mal, à s'empresser. Mais toi, tu dois lutter contre elle, ne pas obéir à ton âme. Et tu dois te rappeler que rien ne te profitera dans ce bas monde, si ce n'est ses œuvres. Ce moment où tu prononces le takbir, que tu dis Allahu Akbar pour commencer ta prière, alors c'est un moment durant lequel tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette œuvre, elle fait partie des œuvres que tu retrouveras devant Allah subhanahu wa ta'ala si tu les accomplis sincèrement pour lui et conformément à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelle-toi de cela pour l'ensemble des œuvres de bien. Si le diable cherche à t'en détourner, si le diable cherche de détourner de l'enseignement du bien à ta famille, du commandement du bien, de l'interdiction du mal, si le diable cherche à te détourner du temps que tu consacres à l'éducation de tes enfants, afin de les préserver des maux, afin de les préserver du polythéisme, afin de les préserver de la mécréance, afin de les préserver des mauvaises mœurs. Rappelle-toi que ces œuvres que tu accomplis, ce sont ces œuvres-là que tu vas trouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autant plus en ce qui concerne l'éducation des enfants. Car comme on a dit, si tu laisses après toi un enfant pieux qui invoquera Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur, alors ceci te sera profitable même lorsque tu seras dans ta tombe. Comme on l'a vu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres de l'enfant d'Adam s'interrompent au moment de sa mort, à l'exception de trois. Et parmi elles, un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Donc, le musulman et la musulmane, ils doivent veiller à mettre en pratique ces enseignements, à patienter dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à apprendre la religion, à la mettre en pratique, puis à patienter face aux préjudices qu'ils peuvent subir sur ce sentier. Et si tu fais cela, alors tu auras accompli les causes pour devenir un guide pour les pieux par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc quelques enseignements et quelques bénéfices que l'on peut tirer de la méditation de ce verset. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ô Allah, donne-nous la joie des yeux en nos épouses et nos descendants et fais de nous un guide pour les pieux. Pour conclure, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis la tenue de ce séminaire et l'organisation de ces assises. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à mettre en pratique ces nobles enseignements et de nous aider à nous accrocher fermement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme je lui demande de m'accorder, ainsi qu'à vous, une descendance pieuse et le bonheur dans nos foyers. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.